Le déclic, ça a été de me dire que je suis responsable de ma vie, en fait. Et la faute de l'extérieur. Oh là là, j'ai pas eu de chance. Oh, j'ai pas eu de chance. Mais non, en fait, t'es responsable de ta vie. Et du coup, à partir du moment où je me suis appuyé sur cette souffrance et j'en ai fait une opportunité pour jumper, tu vois, la métaphore, elle est là, tu vois. Je me suis appuyé dessus, C'est comme un ressort, en fait. Et quand j'ai lâché le ressort, je suis monté haut. Je suis pas victime de ma vie. J'ai une vie. Elle a plein d'aspects positifs, quelques aspects négatifs, mais je vais en faire une force. Et quand j'ai compris ça, derrière, j'ai le smile, j'ai la patate. J'espère que ça s'est senti dans ce podcast. Je suis toujours positif, je vais de l'avant. Et va quoi, t'es lancé, tu vois. C'est comme à l'école, tu sais, quand on jetait des trucs là, la balle elle est restée longtemps, très très longtemps bloquée, mais quand elle est partie aussi vite que Verstappen.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com, et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Alexandre.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Je vais très bien, très content d'être avec toi pour ce moment, super.
Eh ben écoute, avec grand plaisir, on va parler de nombreux sujets aujourd'hui, on se connaît depuis un petit temps maintenant, on s'est croisé à plusieurs événements, des amis en commun. Alexandre, je te présente très rapidement et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc tu as commencé à investir dans les parkings il y a maintenant 10 ans, à 27 ans tu fais l'acquisition de ton premier parking. Le 31 mai 2022, après avoir accumulé 65 places de parking, tu quittes ton CDI pour vivre de tes revenus locatifs. Le 16 juin 2022, tu sors ton premier bouquin, ton premier livre sur l'investissement dans les parkings. En octobre 2022, tu lances ta formation en ligne, Investir dans les parkings. Et en 2023, tu réinvestis tes bénéfices dans des projets de jeunes entrepreneurs en tant que business angel pour soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, t'es entrepreneur, mais également investisseur immobilier, créateur de contenu aussi, passionné par les montres, auteur et business angel. Donc, on va avoir pas mal de sujets ici aujourd'hui. On a aussi des points communs avec notamment les montres et deux, trois amis en commun. Mais j'ai envie de revenir d'abord sur tes débuts. En mars 2013, tu as fait le grand saut en achetant ton tout premier parking pour seulement 4000 euros à Paris. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet investissement, celui-ci plutôt qu'un autre?
Bah écoute Alex, je gérais assez mal mon argent, je vivais un peu au-dessus de mes moyens comme plein de gens. J'étais commercial en alternance et du coup je devais gagner peut-être 1000 euros par mois avec un peu de variable parfois et je faisais beaucoup de ventes par téléphone, beaucoup de phoning, une super école et je prends goût à l'argent. Je me dis « Ah, je ne gagne pas beaucoup ». Mais je prends goût à l'argent. Par contre, je ne comprends pas comment le sauver, comment le faire fructifier. Le côté business, je ne l'avais pas du tout. Et là, je commence à regarder du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des premiers bouquins. Je parlais très mal anglais, donc il y avait quelques bouquins en français sur l'immobilier, mais c'était vraiment quelques acteurs. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et quand tu veux t'enrichir, bah, il y a l'entrepreneuriat, il y a monter des business, il y a s'associer, mais l'immobilier aussi dans la conversation, au bout d'un moment. Après, on n'y va pas, mais c'est dans la conversation. Tous les riches, à un moment, ont souvent de l'immobilier, si tu veux. Et moi, je n'y connaissais rien, j'étais vraiment nul. Et je me dis, il faut que j'achète un bien immobilier pour le mettre en location. En fait, l'idée d'avoir un loyer, l'idée d'avoir une rentrée d'argent, quelqu'un d'autre qui te paye que ton employeur, pour moi, c'était magique. C'était vraiment en dehors de tout et c'est pour ça que le parking, je me suis dit c'est ok. Et en fait, tout simplement, pourquoi un parking? C'est que j'ai mis du moins cher au plus cher sur les sites de petites annonces. Et forcément, moins cher, c'est cave ou parking. Donc 4000 euros, tu peux pas faire moins cher, surtout à Paris.
Ouais, effectivement, c'est un peu une façon simple de mettre le pied à l'étrier et t'obliger à pouvoir le faire en faisant cette première marche. Je comprends tout à fait. J'ai d'autres questions, mais je rebondis sur un truc que tu viens de dire que je trouve hyper intéressant. Au moment où tu fais ce premier investissement, on est en 2013, tu as une intelligence financière et une intelligence d'investissement qui est du coup peu développée. Tu as les bases et encore tu fais quelques erreurs, c'est pour ça que tu fais ce premier investissement avec le peu d'argent que tu arrives à mettre de côté. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie, notamment dans ta vie d'investisseur et d'entrepreneur. Et tu évoques le fait que, comme beaucoup, tu vivais au-dessus de tes moyens. Tu as utilisé le terme comme plein de gens. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui fait selon toi que plein de gens, justement, vivent au-dessus de leurs moyens? Et qu'est-ce qui fait que dans notre société actuelle, les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ne se permettent pas d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les yeux, quant à leur capacité à pouvoir faire de grandes choses à long terme et souvent surestiment leur capacité à faire des choses à court terme?
C'est une très bonne question. Je pense, Alec, que les gens n'ont pas de ligne de conduite claire, n'ont pas d'objectif clair et n'ont pas de roadmap. Donc déjà, à partir du moment où tu n'as pas un objectif clair et tu n'as pas des étapes, c'est compliqué de sauver de l'argent, tu vois, d'économiser. Ça, c'est un premier élément. Donc je pense qu'il y a un manque de clarté de beaucoup de gens. Mmh. Les gens ont envie de s'enrichir, mais ne savent pas comment faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas d'autodiscipline. Ils n'ont pas compris ou ne veulent pas voir, sont dans le déni en fait, ne veulent pas voir que pour atteindre ces objectifs, il faut faire des sacrifices. Je vais te donner un exemple qui va te faire marrer. J'ai un très bon ami, je vais le revoir là d'ailleurs à la fin de l'année. On va à la montagne tous les ans. Et je t'assure, Alec, que sur la même remontée mécanique, à chaque fois, il me dit « Alexandre, je vais me lancer dans l'immobilier, je vais faire quelque chose. » Et chaque année, il me redit la même chose. Et il ne se rend même pas compte que j'en ai marre. Ça fait 4 ans qu'il me dit ça. Donc, en fait, les gens veulent pas faire d'efforts. Donc, ils vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils n'ont ils ont pas de projet. Parce que c'est que quand tu as un projet clair que tu dis « Ok, j'ai cet objectif d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Pour atteindre cet objectif, je dois me serrer la ceinture. » Et les gens sont toujours dans leur zone de confort. Et tu as peu de gens qui sont OK pour vivre dans moins de mètres carrés, arrêter les restos, les verres. Quand ils prennent une bouteille de vin au resto, ne pas en reprendre une deuxième, etc. Ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices. Donc, si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, c'est OK.
Ouais.
Mais viens pas me parler d'ambition.
Ouais, gratification, ce fameux immédiate. Concept, voilà, gratification instantanée versus gratification long terme, tout à fait. Je te rejoins. Et justement, en parlant de long terme, il y a quand même un fait qui, je trouve, est marquant dans ton parcours. Je te connais sans vraiment te connaître dans les détails et j'ai une question qui me vient et qui est super intéressante. C'est, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup. C'est que beaucoup de gens, tu vois, ils veulent tout de suite. C'est ce que tu évoques, notamment au travers de ce que tu viens de partager ici. Et je te rejoins. Et pourtant, c'est seulement en mai 2022, donc 9 ans pratiquement après avoir, ou plus de 9 ans après avoir investi dans ton premier parking, quand tu as quand même réussi à acquérir 65 parkings, c'est pas rien, on parle pas de 5, 10, 15 parkings, 65 parkings, que tu quittes ton CDI pour te consacrer pleinement à tes investissements. Qu'est-ce qui fait que tu as attendu finalement 9 ans et 65 parkings pour le faire? Est-ce que c'était la sécurité? Est-ce que c'était... que tu étais stimulé dans ton métier? Est-ce que c'était parce que tu n'avais pas encore atteint un certain niveau? Et surtout, quel a été le déclic pour faire cette transition et oser passer le pas?
Ok. Alors, je vais te parler du déclic et je vais te parler pourquoi je l'ai fait. Le déclic, ça a été que j'en avais marre au bout d'un moment d'avoir quelqu'un qui me dise « Appelle Monsieur Dupont, Madame Michu, Madame Durand, rappelle, etc. » Tu vois, j'en avais marre qu'on me donne des ordres, tout simplement. Je me suis dit « Écoute, les ordres, c'est moi qui vais me les donner à 100% à partir d'aujourd'hui. » Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Parce que réussir, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, j'avais entendu une phrase de quelqu'un qui disait « J'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain. » Les gens voient la face en dehors de l'iceberg, mais ils ne voient pas tous les sacrifices. Moi, ça a pris 9 ou 10 ans parce que je voulais... j'avais pas d'argent. J'avais, tu vois, zéro. J'ai grandi avec ma mère. Mon père est mort, j'avais 9 ans. J'ai pas de frères et sœurs. Donc, famille monoparentale, sans frères et sœurs, sans repères. Donc, tu es en insécurité, par définition. Donc, qui dit insécurité dit « Ah bah tiens, j'ai une sécurité, j'ai un CDI, je suis commercial, cadre, etc. Je gagne relativement correctement ma vie. » Bah, c'est quand même « Putain, je me détends, quoi. » Tu vois, je me détends. En plus, ma mère, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'immobilier, même pas du tout. Donc, elle peut pas m'apporter cette espèce de sécurité dont je manque. Donc, je me dis « Écoute, serre les fesses, reste salarié et va au bout du système. Utilise à fond le système, le levier bancaire. Tu vas voir ta banque, tu dis voilà, je gagne 2 500, 3 000 par mois. Faites-moi des crédits. Soigne la relation commerciale que tu as avec ton conseiller bancaire. » Et du coup, je suis allé au bout du système, Alec. Et j'ai pu lever un maximum de dettes. Et en fait, je suis parti de la rat race, quoi, du salariat, au moment où j'avais vraiment épuisé, selon moi, le système. C'est-à-dire que j'avais le max de ma capacité d'emprunt, c'était compliqué de réinvestir. J'ai gagné plus en revenu, en marge, pas en revenu, en marge, avec mes parkings qu'avec mon salaire de commercial. Il y avait le bouquin qui allait sortir chez Erol 15 jours après. J'avais plein de projets et je me suis dit, il y a un moment, tu ne peux pas tout faire. Il y a un moment, prends une décision. Arrête d'avoir peur, parce que bien sûr, j'avais peur. On a tous peur. Prends une décision et fonce. Je me suis dit, il y a un momentum, il y a un timing. C'est soit tu le fais maintenant, ou soit derrière, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis lancé. Je me suis dit, écoute, c'est le bon timing. Tu as un bouquin qui va sortir. Prends une attachée de presse. Donc, j'ai payé à mes frais une attachée de presse. Ce n'est pas l'éditeur qui a payé, hein, je le précise en direct avec toi. J'ai payé une attachée de presse en tant que bon commercial, tu vois, qui va de l'avant. Et j'ai dit, vas-y, feu, on y va. Et en plus, en interne, pour finir, en interne, Alex, ce n'était pas hyper bien vu. Parce que tu sais, il y a beaucoup de jalousie, tu le sais bien.
Ouais.
Surtout en France, j'ai envie de te dire. Donc moi, si tu veux, en plus, l'univers des commerciaux, des sales, tu sais, il y a la belle voiture, le beau costard, la belle montre, tu sais, tout le monde un peu se tire la bourre. Quand c'est bienveillant, c'est OK. Mais quand c'est pas bienveillant, c'est pas top. Et tu vois, ça a commencé à parler, ah, il va sortir un bouquin, le machin. Et à un moment, le country manager, le directeur France de la boîte où je bossais, m'a convoqué, m'a dit, ouais, j'ai pas bien compris, Alexandre. Je suis allé voir sur société.com, t'as créé une société, là. Je fais, oui, et alors ? Ah, mais t'as créé une... Mais du coup, tu travailles quand sur ta société par rapport à ton boulot ? Je fais, mais attends, j'ai des super résultats, je performe, je suis le premier commercial sur le segment, j'atteins mes objectifs. Et en fait, malgré l'atteinte des objectifs, le fait que j'ai créé une société était hyper mal vu. Et limite, l'issue du rendez-vous, c'est en gros, Alex, tu choisis. Soit tu te lances ou soit tu restes avec nous. Mais en gros, en interne, c'est pas hyper bien vu. Je sors de l'entretien. 10 jours, pas de motivation, j'arrive plus à décrocher mon téléphone pour aller vendre. Et après, je dis, OK, les gars, tu sais, mon ego m'a touché. Je dis, les gars, ouais, bon, au revoir. Je suis parti en bon terme, mais je me suis dit, c'est la goutte d'eau. En fait, je me suis dit, en fait, c'est le signe. C'est l'opportunité que là, c'est bon.
Ouais, ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et
voilà, c'est ça.
Tu évoques un sujet qui est intéressant, c'est que tu dis, voilà, les gens sont jaloux, surtout en France.
Ouais.
Moi, j'irais plus loin. Les gens sont extrêmement hypocrites avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes, parce que finalement, les gens n'aiment pas le succès, mais tout le monde a envie d'atteindre le succès. Selon toi, c'est lié à quoi ? Parce que finalement, toi, aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont été inspirés par le succès, se sont donné les moyens d'eux et qui maintenant, à ton tour, bah, t'essaies aussi d'inspirer les autres, que ce soit par tes passions, par ton envie de partager, par ta création de contenu, par ton bouquin, par tes formations, par ta présence à différents séminaires, etc. Donc, t'es de l'autre côté de cette barrière. Mais tu as aussi été finalement spectateur de cette situation. C'est lié à quoi selon toi ?
Tu veux dire le fait qu'en France,
on
essaie de... C'est une bonne question. C'est une très bonne question que je me pose beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, je pense que c'est culturel. En France, on a un pays qui est très socialiste et on n'aime pas qu'il y ait une tête qui dépasse. C'est un peu comme dans les pays scandinaves. Tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis qui était en Suède et il m'a dit « La Suède, c'est très beau. » Les gens gagnent très bien leur vie, mais on n'aime pas la tête qui dépasse. Mais en France, c'est un peu pareil. Mais c'est un peu hypocrite parce qu'en même temps, c'est le pays de la manifestation, des idées, des contestations, etc. Donc en fait, en France, les gens sont très bons théoriciens, techniciens, beaucoup d'ingénieurs, pas beaucoup de sales malheureusement, même si ça change. Mais les gens sont frustrés. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre en France. En France, ils veulent à la fois leur petit CDI, leur petit confort, leur petit 2000 euros par mois, avec le 13e mois, l'intéressement, la petite voiture de fonction un petit peu pour certains. Mais ils ont peur de l'insécurité. C'est pas comme les cultures anglo-saxonnes, ou même en Suisse, c'est quand même beaucoup mieux, ou en Angleterre, aux États-Unis, où là, c'est l'individualité qui prime. C'est toi, qu'est-ce que tu peux faire, et pas le collectif. En France, c'est beaucoup le collectif. Plus que l'individuel, c'est ça le problème. Et c'est très culturel, c'est très très ancré. Hein. T'en as qui vont dire que c'est l'héritage de la culture judéo-chrétienne, t'en as qui vont dire que c'est l'héritage de la France, c'est l'histoire de la France, peu importe, mais en tout cas c'est très ancré. Moi, si tu veux, j'ai essayé de pas me focus sur ça. Donc déjà, je regarde pas les news, les infos, les trucs, très peu. J'ai lu des bouquins motivants. Là, j'avais rien, à un moment j'étais décrocheur scolaire, à un moment, ça j'en parle même pas dans mon bouquin, à un moment j'ai quitté l'école, j'étais dans ma chambre. C'était la catastrophe, j'avais plus quoi faire. Ça a duré un petit moment d'ailleurs. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce qui me reste ? Il y avait le sport, j'ai toujours aimé faire du sport. Donc ça m'a sauvé. J'étais pas attiré par tout ce qui était drogue, etc. Jouer un peu aux jeux vidéo, à Call of, etc. Moi, ça me faisait éclater. Mais c'est les bouquins. Et les bouquins m'ont sauvé, en fait, des bouquins inspirants, etc. Et c'est vrai qu'en France, bah, mais c'est en train de changer. tu vois, j'ai envie d'être optimiste. Et c'est vrai que les nouvelles générations, bah, ça les fait plus rêver d'être 20 ans salariés dans une boîte. Donc, ils sont de plus en plus open pour aller, pour ne pas être salariés, en fait. Donc, c'est en train de changer. Mais c'est quand même très ancré, le salariat, on ne prend pas de risques. Et pour finir, un des exemples très clairs, c'est que l'investissement dans les entreprises, prendre des participations dans les entreprises, que ce soit des startups ou des boîtes plus matures, en France, c'est très, très peu développé par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis. En France, c'est l'IMO. L'IMO, ouais. Résidence principale. Je ne te parle pas du locatif. Donc, le fait que la résidence principale soit le number one en France, en IMO, ça prouve bien qu'on est risque averse. C'est une mentalité.
Ouais, ça en dit long, effectivement, sur le niveau d'éducation du marché à l'égard de l'investissement au global. Un autre sujet, et on va venir justement sur le sujet investissement, investissement parking, tes autres activités, ta vision, etc. C'est que tu as mentionné notamment avoir été poussé à un certain moment par un désir de renaissance et de résilience, à un moment précis, suite au décès de ton papa. Comment cette expérience t'a influencé dans tes projets et t'a donné une certaine force peut-être pour aller de l'avant?
Franchement, Alec, c'est un pivot chez moi. C'est une deuxième naissance. Ça a été c'est une force et c'est une opportunité. Mais après coup, hein, c'est pendant longtemps, j'en parlais même pas. C'est-à-dire que pendant longtemps, toi, tu as vécu des choses semblables, mais tu as peut-être vécu ça aussi. Pendant longtemps, c'est un truc que tu caches. Limite, tu mens à l'école. Ton père, il fait quoi? Bah, il fait ça. Il est encore en vie, en fait, tu vois. Et il y a une phase de déni. Et tu mets du temps à l'assumer. Moi, c'est le bouquin qui m'a... J'en parle dans mon bouquin, c'est un bouquin sur les parkings, mais j'en parle, tu vois, pour te dire à quel point ça m'a marqué. Et ça m'a vraiment libéré. Après, je me suis dit, vas-y, feu. Mais c'est un moteur. On a besoin d'un moteur. Il faut un moteur fort pour aller acheter des parkings, pour enchaîner les acquisitions, pour vivre en dessous de tes moyens. Quand tes copains vivent dans 40 mètres carrés, ils vont au resto, ils vont au ski, ils vivent bien, et que toi, tu te restreins. Quand tu arrives à mettre 1000, 1500 euros de côté alors que tu ne gagnes pas énormément, bah, il faut avoir là, une grosse détermination. Et la détermination, elle ne tombe pas du ciel. La détermination, ça peut être une frustration liée au manque d'argent, ça peut être une soif de revanche positive. Moi, ça a été ça. Perdre un parent jeune, un père, une mère, hein, tu vois très bien de quoi je veux dire, c'est une injustice. Aucun enfant ne mérite de perdre un père ou une mère. Point barre, c'est un postulat. Maintenant, soit c'est un frein, ou soit c'est une opportunité, une force. Et moi, si tu veux, ce why, ce moteur, c'était ça, c'était de me dire, ok, la vie a été injuste avec moi, je vais transformer cette colère qu'on a tous quand tu vis ça, tout le monde passe par ce stade, hein, en force. Et du coup, bah, ça m'a donné une motivation infinie. Et c'est sûr que si j'avais encore mon père, bah, je pense que tu vois, j'aurais déjà deux enfants, je serais marié, je serais dans une entreprise, j'aurais peut-être un boulot bien payé, mais peut-être que je me ferais chier aussi dans ma vie. Tu vois.
Ouais, je comprends. Je comprends complètement. Et justement, aujourd'hui, avec plus de 91 parkings, sauf erreur, quelle a été ta stratégie pour développer ton portefeuille et comment tu as géré la croissance et l'évolution de tes investissements, la diversification de tes investissements? Parce qu'il faut une vraie logique derrière. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
La logique, moi, c'est celle du cash flow, c'est de me dire j'achète à crédit la plupart du temps et il faut que ce que je gagne soit supérieur au crédit moins aux charges et aux impôts aussi d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à acheter en propre parce que je ne savais pas faire. Donc, j'ai acheté en nom propre. Après, je me suis rendu compte que les impôts en France sur le revenu foncier, ce n'est pas du LMNP, ça fait un peu mal. Même s'il y a quelques dispositifs comme le micro-foncier, etc. Mais ça reste que ça fait mal parce que c'est indexé sur ta tranche marginale d'imposition en fonction de tes revenus. Après, j'ai commencé à me renseigner. Mais tout est autodidacte. Hein. J'ai aucun oncle, personne dans ma famille, aucun mentor, etc. C'est vraiment en autodidacte, juste avec la rage, quoi. Après, je me suis renseigné, j'ai lu des bouquins sur les SCI, j'ai essayé de comprendre l'imposition des sociétés. Donc, j'ai investi en SCI à l'IS. Et puis, j'ai fait des tableaux Excel, moi qui étais nul en Excel. Hein. Je rappelle que j'ai fait un bac littéraire avant de faire une école de commerce, hein, en alternance. J'ai fait un bac littéraire. Donc, moi, je kiffais, tu vois, le ciné, Marlon Brando. J'étais fan, en fait, de tout ce cinéma un peu à la De Niro, à la Pacino. C'était ça qui me drivait, tu vois. J'ai voulu être acteur à un moment, quand j'étais perdu, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, t'es pas bon en maths, t'es pas bon dans les Excel et tout, forme-toi. Et bam! J'avais une ancienne copine à l'époque qui m'a vachement aidé à me structurer, qui avait une mentalité plus scientifique. Elle m'avait fait plein d'Excel, j'avais bossé là-dessus, etc. Et du coup, j'ai scalé, en fait. J'ai industrialisé. Et après, c'est devenu des mathématiques. Je me suis dit, bah, j'achète ça. Ça rend, la rentabilité s'étend. Après, j'ai sous-traité la gestion. J'ai gagné de l'argent parce qu'en fait, étant commercial de formation, j'arrivais bien à négocier des places atypiques. C'est-à-dire que ce n'est pas juste acheter des parkings. Ce que j'ai fait, c'était acheter des parkings un peu atypiques. Tu vois, par exemple, triangulaires, avec des formats un peu bizarres. Et moi, je gagnais beaucoup d'argent parce que j'ai été un des premiers à mettre des motos et des scooters dans mes parkings. Donc, je vais te faire un exemple, Alex, ça va être très simple. C'est qu'un parking, admettons, qui te coûte 20 000 euros, où tu peux mettre une voiture lambda sous un immeuble en copropriété, bah moi, je n'achetais pas celui à 20 000, j'ai acheté celui à 12 000, 13 000, mais parce qu'il était triangle, tu vois. Donc, une voiture ne se garait mal ou ce n'était pas terrible. Sauf que moi, je savais que derrière, j'allais le diviser en 4 et mettre 4 motos ou 4 scooters à 50 euros par deux roues, donc 200 euros. Donc, au lieu de gagner 100 euros pour une place à 20 000, ce qui fait 5% de rentabilité, bah moi, j'allais l'acheter moins cher, j'allais acheter 12 ou 13 000 et j'allais faire exploser la renta puisque je le louais plus cher. Mais en fait, j'achetais moins cher et je louais plus cher. Et en fait, ça, j'ai rien dit pendant 10 ans. J'ai pas raconté ma vie sur les podcasts, dans les bouquins, et j'ai enchaîné avec cette avance de marché en fait que j'avais ressenti en me disant bah il y a une opportunité de marché. Ça aurait pu être une startup, hein, mais je l'ai fait en mode perso. Et je malgré l'argent que je gagnais de plus en plus, bah tu vois, à part me payer une belle montre et encore je l'ai fait tard, hein, ça. Je vivais normalement en fait. Limite je vivais de plus en plus modestement, alors gagner de plus en plus d'argent. Et à la fin, je me souviens, je gagnais 5-6 000 euros entre une partie des parkings plus mon salaire et je vivais dans 16 mètres carrés. Mais c'était OK, en fait, parce que je savais que derrière, je gagnais très bien ma vie et j'arrivais à mettre quoi, 1 400 euros de côté. Et au bout d'un moment, j'ai dit OK, Alex, tu t'es serré la ceinture, tu t'es fait mal, t'avais besoin, t'avais envie et maintenant, commence à vivre. Et là, après, je me suis dit bon, on va se faire plaisir et maintenant, je profite quand même beaucoup plus.
OK. Tu as indirectement répondu à pas mal de mes questions là en une seule phrase. Beaucoup peut-être l'ont perçu, mais pour ceux qui ne l'ont pas perçu, je vais décortiquer un petit peu tout ça. Premier point, c'est aujourd'hui quand on t'écoute effectivement, ne serait-ce qu'avec cette démonstration de rentabilité, en faisant une simple règle de 3, on comprend qu'il y a une vraie opportunité, qu'il est possible de pouvoir avec la négociation acheter des parcelles de terrain, type parking, moins cher et puis ensuite les diviser, augmenter la rentabilité, etc. Mais concrètement, en quoi l'investissement dans les parkings diffère-t-il des autres types d'investissements immobiliers comme les appartements en termes de gestion, en termes de risque, en termes de rentabilité? Et pourquoi, si c'est si avantageux, les gens ne le font pas ou c'est pas aussi populaire? Parce que tu vois, là sur ces dernières années, et ça nous fait tous les deux rire, effectivement entre 2018, 2019, 2020, 2021, en tout cas la phase avant Covid, tu as énormément de gens sur Internet qui ont communiqué énormément sur l'investissement immobilier locatif, l'indivision. Maintenant, on entend parler des biens atypiques, de certains types de biens, etc. Mais peu, finalement, parle des parkings.
C'est clair.
Vous êtes très, très peu. Tu es un des seuls que je connaisse. Pourquoi ?
C'est un très bon point que tu soulèves et je te remercie de le soulever, Alec. Alors déjà, il y a une chose. Moi, tous les jours, je croise des gens. Ah, j'y ai pensé au parking, mais je ne l'ai pas fait. Déjà, il y a plein de gens qui, tu sais, alors c'est vrai ou pas, on s'en fout, mais qui te disent « Ah, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait ». Ce que tu dis est très, très vrai. C'est la première fois qu'on me pose la question dans un podcast ou une émission de radio sur comment ça se fait qu'il y a une super opportunité et que personne n'en parle. On ne parle que du LMNP, on ne parle que de marchand de biens, immeuble de rapport. C'est ça aujourd'hui sur Internet.
Ouais.
Alors, je vais répondre très précisément à ta question. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent être riches du jour au lendemain. Donc forcément, c'est plus sexy de vendre le fait de gagner de l'argent sur un immeuble de rapport ou de faire du marchand de biens où tu vas prendre 20, 30, 50, 100 000, 150 000 à chaque fois, plutôt que le parking. En fait, le parking, ça a une image un peu de gain petit. Parce que c'est l'effet cumulé. C'est la stratégie des petits pas. Mon premier parking, j'ai gagné 45 euros par mois, Alec. Celui que j'ai acheté 4000 euros à Paris. 45 euros par mois. Mes potes se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais attends, ils rigolaient, tu vois. Ils étaient avec des Audi A3, partir au ski, Val d'Isère et tout. Ils disaient, mais attends, tu gagnes 45 euros par mois, c'est nul. Maintenant, ils achètent le bouquin. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas suivre le process parce qu'ils sont trop impatients. Ils se disent, mais tu vas gagner 45, 100, 200, 300, 400 euros avec des parkings. Oh, tu vas passer chez le notaire, tu vas taper des locataires. Oh, la flemme, flemme. Je vais faire du marchand de biens ou je ne vais rien faire du tout d'ailleurs souvent. Donc, le problème, c'est que les gens se noient dans un verre d'eau et ils ne veulent pas faire d'efforts. Toi, pour monter tout ce que tu as fait, pour remonter la pente aussi par rapport à ton parcours, il y a énormément d'efforts. Moi, il y a eu énormément d'efforts aussi. Donc, les gens ne veulent pas faire ces efforts-là, sont très feignants. Donc, ils ne pourront jamais gagner 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 dans les parkings. Parce que ça, si tu veux, pour eux, la montagne, mais c'est mental, hein, pour eux, la montagne est trop élevée. En réalité, et là, c'est la deuxième partie de ma réponse, en réalité, c'est beaucoup moins de gestion que des appartements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme l'immobilier commercial. Il n'y a rien à détruire. Il n'y a pas de dégâts des eaux. On ne va pas te défoncer ta cuisine, ta salle de bain, ton mobilier. Ce n'est pas la même législation, les amis. C'est le code civil. Si vous vous renseignez, le code civil, c'est un contrat ouvert. On fait ce qu'on veut. Alors que les appartements, etc., l'habitation, c'est soumis par la loi Allure. Il y a les diagnostics, tu sais, les DPE, performance énergétique. Il y a plein d'ennuis. Ton locataire ne paye pas, tu ne peux pas le mettre dehors s'il a plus de 65 ans. Tu ne peux pas le mettre dehors l'hiver, il y a la trêve hivernale. Enfin bref, la législation protège beaucoup plus ton locataire que toi, le propriétaire. Le parking, il n'y a rien de tout ça. C'est une autre norme, c'est une autre loi, c'est le code civil. Donc en réalité, c'est plus simple. Il faut juste avoir un bon Excel et il faut juste accepter de grossir petit à petit. Ça, les gens ne le comprennent pas. Ça, les gens ne le comprennent pas. Il y a plein de gens, tu vois, je discutais avec des gens qui veulent lancer un podcast. Et en fait, pourquoi ils ne lancent pas le podcast ? Parce qu'ils veulent tout de suite un podcast qui soit gros. Mais avant d'avoir un gros podcast, bah, t'as un petit podcast avec un moins bon logo, puis après, tu travailles le logo, après, t'as des meilleurs invités, etc. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi les gens ne sont pas intéressés au parking ? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'infos sur Internet, c'est assez mystérieux. Moi, j'essaie, c'est mon rôle, tu vois, à travers mon bouquin, ma création de contenu, de démystifier ça. Et de deux, ils se disent, mais je ne vais jamais réussir à gagner de l'argent, c'est un truc de crevard, de crève la dalle. Ce qui est faux, puisqu'en réalité, tu peux gagner de l'argent et tu dilues le risque. Parce que moi, si j'ai 100 locataires et que j'ai 100 locataires à 100 euros, par exemple, et que j'ai un locataire qui ne paye pas le loyer, j'ai 100 euros de manque à gagner. Alors que si tu gagnes 5000 euros, par exemple, avec un seul locataire, il te plante, t'es dans la merde.
Complètement, complètement. Je pense que tu mets le doigt effectivement sur un point aussi, c'est que toute cette hype autour de l'immobilier et différentes typologies d'investissement que tu as évoquées ou que j'ai pu évoquer, elle est beaucoup liée et tributaire du marketing.
Et, c'est sexy, c'est plus sexy.
Et voilà, et c'est difficile de faire un marketing alléchant sur quelque chose de moins sexy. Ouais. Même si d'un point de vue plus logique d'investissement, ou si on prend la stratégie Warren Buffett, tu vois, méthode des petits pas, effet cumulé, la méthodologie que tu évoques là fait beaucoup de sens. Et pour justement ceux qui nous écoutent et qui seraient convaincus et qui se disent, mais oui, putain, Alexandre a raison, let's go, il faut que j'avance. Pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans les parkings, c'est quoi les 2-3 conseils pratiques? Si on avait 2-3 principaux basés sur tes 10 ans d'expérience dans ce domaine à partager pour pouvoir se lancer et pouvoir tirer pleinement profit de ce marché ou éviter de faire des erreurs, ce serait quoi ?
Commencez petit. J'ai presque envie de dire, Alec, le plus petit possible.
Ok.
Si tu peux commencer avec un parking à 6 000, c'est mieux qu'un parking à 30 000. Pourquoi ? Parce que si tu te plantes, tu vas moins pleurer. Et tu auras moins peur. Tu auras moins peur de planter, donc tu vas plus te lancer. Donc déjà, réduisez le risque avec un petit investissement. Regardez les charges de copropriété. L'erreur de débutant, c'est que parfois, vous voyez des parkings qui ne sont pas chers. Parce qu'en fait, les charges sont très élevées. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas chers. C'est pour vous attirer. Et en fait, la douille derrière, c'est que les charges sont élevées. Donc, moi, je donnerais un conseil, c'est les charges mensuelles de copropriété. Parce qu'en tant que propriétaire d'un parking, s'il est en copropriété, hein, je ne parle pas si c'est un garage à l'extérieur, mais s'il est dans une copropriété, donc sous un immeuble souvent, ou dans la cour, ou sur un toit, vous participez aux charges. D'accord ? Si c'est plus de 25 euros par mois, c'est trop. Tu vois, si vous avez des charges de 30-35 euros, c'est les charges presque d'un petit studio. Donc, il ne faut pas y aller. Et troisième conseil que je donnerais, c'est éviter d'acheter des parkings. Je vous en parle parce que moi, j'ai fait la connerie. Avec un ascenseur, avec un monde voiture.
Okay.
Vous savez, parfois, il n'y a pas la place d'avoir une rampe d'accès. Donc, tu as un espèce d'ascenseur. Ça fait peur au locataire. Ça tombe en panne et les charges sont très élevées.
C'est quoi, sur les 91 parkings que tu as actuellement, c'est quoi l'investissement le plus, foireux que tu as pu faire dans les parkings, là où tu as appris le plus? Et peut-être même là où tu as perdu de l'argent finalement, qu'on en tire un petit peu le nectar de ça, la leçon, pour éviter de la reproduire.
J'ai acheté une place dans un quartier que je ne connaissais pas bien. Tu sais, quand tu as un excès de confiance, on fait tous des erreurs. Bon, tu dis, bon allez, ça marche, j'enchaîne. J'ai acheté une place dans le 15e arrondissement. J'en ai plusieurs dans le 15e, mais ça, c'était le 15e un peu sud, il y avait à Paris. J'ai pas fait assez le tour, j'ai pas fait d'études de marché, savoir s'il y avait la clientèle, etc. J'ai jamais réussi à louer. Enfin là, j'arrive à louer, ça fait, je l'ai loué 2 mois en 1 an, quoi. C'est une catastrophe. Et grosse vacances locatives, parce que vaut mieux avoir, tu sais, un parking que tu loues moins cher, mais que tu loues. Le pire, c'est de ne pas avoir de locataire et de continuer à payer tes charges. Et l'erreur que j'en retiens, c'est que il faut toujours être humble et toujours suivre ses fondamentaux, c'est-à-dire se balader dans le quartier, regarder l'environnement, est-ce que les gens ont suffisamment d'argent pour acheter un parking? Parce que tu sais, Alec, un parking, c'est pas élémentaire comme on a tous besoin de se loger. Le parking, c'est du luxe. Si t'as pas d'argent, tu vas pas payer 100 euros ou 50 euros pour ta voiture ou pour ton scooter. Tu le laisses dans la rue si t'es vraiment dans le besoin. Donc, il faut déjà une clientèle qui ait les moyens de pouvoir payer un stationnement. Donc là, c'était beaucoup de logements sociaux, donc ça ne correspondait pas forcément à la clientèle. Donc, je n'ai pas suffisamment creusé, tu vois, je me suis dit, allez, go, on y va. Et je l'ai payé cher. Donc j'ai dû retourner sur le terrain, mettre des petits mots, etc. Aller sur plein de plateformes, etc. Et j'ai trouvé un locataire, mais ça a été du stress. Et le stress, c'est de l'argent, ça a un coût, le stress. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment... Faites l'étude de marché, comprenez le persona, l'avatar, qui tu veux comme client. Est-ce que tu veux quelqu'un d'aisé? Est-ce que tu veux quelqu'un qui a la trentaine? Est-ce que tu veux quelqu'un qui est jeune, qui a un petit scooter, un petit 50? Est-ce que tu veux un père de famille qui a un 4x4? Vise ton client, même pour un parking. Qui veux-tu comme client? Et va acheter le parking dans le quartier où vit cette personne que tu vis. C'est hyper marketing, le parking, finalement.
Ouais, encore plus, on est encore plus dans la notion finalement positionnement. Quoi.
Bien sûr, positionnement. Ouais. Moi, j'ai un positionnement hyper clair dans mes places. Mon positionnement, c'était les quartiers montants. Je n'ai pas investi dans les quartiers hyper bourgeois. J'ai investi dans le 18e, dans le 11e. Je suis allé aussi un peu dans le bourgeois, mais je n'en ai pas dans le 16e, par exemple. Je voulais un peu du bobo. Tu vois, la personne, je faisais du deux roues beaucoup, je fais toujours. Et je voulais, si tu veux, le mec qui a les parents un peu dans le 16e, mais lui qui s'encanaille un peu dans le 11, tu vois, qui aime bien sortir, l'after work, donc il va acheter une moto, il a un peu d'argent, mais il est en deux roues, il a une situation, etc. Je visais vraiment le quartier montant un peu bobo, et j'ai fait all-in là-dessus. Et je connaissais parfaitement le coin, je passais beaucoup de temps à prendre des cafés, à observer les gens. Est-ce que le quartier monte, est-ce que le quartier descend? Je regardais tous les commerces. Est-ce qu'il y a des boutiques bio qui arrivent? C'est bon signe, ça. Tu vois, s'il y a un Naturalia, un Biocop qui arrive, ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat. C'est mieux qu'un taxiphone ou qu'un truc de point relais, tu vois. Je regardais tout ça, j'étudiais tout ça. Et après, je disais, OK, j'achète exactement à cet endroit-là. C'est chirurgical, en fait, le parking.
Complètement. Et imaginons, là, je suis déterminé, j'ai écouté tes conseils, je suis quelqu'un qui passe à l'action. J'ai 3, 4, 5, 10 000 euros sur mon compte de côté. J'ai acheté ton bouquin. J'ai commencé à le lire, là, cette nuit, j'ai tout lu. Demain, je vais mettre en place toutes les stratégies et dans une semaine, c'est bon, j'acquire un parking. Une fois qu'un parking est acquis, c'est quoi les meilleures stratégies de gestion à mettre en place pour maximiser la rentabilité du parking finalement? Que ce soit pour le louer à coup sûr ou que ce soit pour le diviser de la bonne façon, Voilà, j'ai mon parking. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour être sûr que mon investissement soit au rendement de son plein potentiel?
Ouais. Déjà, il y a un petit hack que je peux donner, que je donne dans mon bouquin, mais je peux vous donner. Mettez une fausse annonce. Tu vois un parking. Là, la personne qui nous écoute, vous voyez un parking, par exemple, sur les sites de petites annonces, Se Loger, Le Bon Coin, si vous êtes en France. Peu importe, ça peut se faire partout, hein, le parking. Hein, je parle de la France, mais ça peut être dans toute l'Europe ou le monde. Moi, j'ai des gens en Portugal qui font ça aussi. Vous mettez une fausse annonce, vous voyez la demande. Donc, il faut absolument qu'il y ait une demande. Vous achetez le parking, vous le négociez bien. Vous avez vu les conseils de négo que je donne dans mon bouquin. Il faut un parking qui puisse se louer à des motos et éventuellement à des voitures. Allez pas all-in sur de la moto si ça marche pas. J'ai des gens, par exemple, dans ma communauté qui se sont dit « Alexandre, tu as fait un carton avec le parking moto à Paris, j'habite à Nantes, j'habite à Tours, j'habite à Angers, je fais du parking moto. » Ouais, mais est-ce qu'il y a de la demande? Tu vois? Pas forcément. Donc, il faut bien comprendre là où vous achetez. Achetez peu cher. Faites une stratégie moto, une stratégie voiture. Et en termes de rendement, je vous conseille d'essayer d'être au moins à 8% brut, quoi, 8 ou 10% brut. L'idéal, c'est 10% brut de charge. C'est important. Donc, c'est vraiment à l'acquisition. Moi, par exemple, j'ai fait des statistiques entre le prix affiché dans l'agence immobilière ou en direct avec le particulier et le prix que je paie chez le notaire, il y a 25% de delta, 25% de moins. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que beaucoup de gens, Alec, tu vois, n'achètent pas de parking ou pas d'immobilier parce qu'ils se disent « Oh, c'est trop cher !» Mais il n'y a pas de prix. Le prix, il est chez le notaire. Ce que tu vois dans une agence immo, ce que tu vois sur Le Bon Coin, c'est une proposition de prix. Le vendeur propose 20 000. Ce n'est pas le prix. Le prix, c'est l'accord entre la proposition du vendeur et l'acceptation de l'acquéreur. Donc, en fait, moi, je connais plein de gens qui se disent « Mais tout est trop cher. Mais quel trop cher ? Il n'y a que des propositions. » Il y a 25% d'écart. Donc déjà, quand tu vois un truc à 30 000 et tu dis « Oulala, 30 000, c'est trop. J'ai fait mes calculs sur Excel, je suis à 5% de renta. » Bah oui, 5%, c'est pas bon. Déjà, apprends à négocier. Grosse compétence, la négociation. Le commercial, le sales, grosse compétence. T'apprends un ego, tu passes de 30 à 26. Et puis, au lieu de louer 100 euros à une voiture, bah, tu vas louer 200 à 4 motos. Et là, t'inquiète pas que ta renta, elle va augmenter. Donc, c'est plein de petits réglages. Bien acheter moins cher. Augmenter l'exploitation avec, pourquoi pas, de la colocation de motos. Tu peux mettre des casiers. Tu vas louer plus cher. Tu peux poser une encre au sol. Tu vois, ça coûte 30 euros sur Amazon. Coup de perceuse, boum, tu mets une encre. Moi, j'ai des places de parking avec un plot où ils peuvent attacher leur chaîne pour leur moto. Je loue 5 euros de plus. Je loue 5 euros de plus alors que j'ai un client reste un an et demi chez moi en moyenne. Pour 5 euros de plus par mois, ça m'a coûté 30 euros ou 20 euros sur Amazon. Donc, tu vois, pour résumer, il faut que vous compreniez la notion de service. Tu veux louer ton parking, apporte du service. Et le service, c'est l'encre pour attacher la chaîne, c'est être sympathique, c'est le relationnel, c'est être réactif sur WhatsApp. Moi, mes clients, tu vois, c'est plus moi qui gère, mais si besoin, ils peuvent me contacter, je peux les contacter. Quand je les rencontre, j'en rencontre très peu, mais quand je les rencontre, comment allez-vous? Du coup, faites quoi dans la vie? Tu vois, intéresse-toi aux gens. Parce que si tu t'intéresses à tes locataires, il y a beaucoup plus de probabilités qu'ils vont te payer le loyer, qu'ils vont te respecter. Donc, c'est tous ces trucs qu'il faut arriver à comprendre.
Ouais, complètement. Complètement, je te rejoins. C'est sensiblement à chaque fois les mêmes conseils, hein, que ce soit sur l'immobilier traditionnel ou même que ce soit dans le business. Mais finalement, c'est le B.A.B.A., c'est la base. Et je te rejoins sur un point, c'est la différence entre le prix affiché, désiré et le prix chez le notaire. Et ça fonctionne pour tout, que ce soit pour l'achat, mais aussi la location. De l'autre côté, moi, je le vois, là, j'étais en plein dans mes recherches d'un nouvel appartement, je suis en plein déménagement. Finalement, tu vois que tu peux négocier 10, 15, 20, 30, 40% du prix parfois.
C'est fou.
C'est assez fou, tu vois. Il suffit juste d'oser et de savoir faire. Donc ouais, c'est...
Oser. Mais tu l'as dit, Alec. En fait, tu as dit un mot important. C'est que 99% des gens ne font pas, c'est les gens osent.
Ouais.
Oser démarcher un éditeur, oser négocier un prix. Oui, vous pouvez négocier le loyer. Moi, j'ai des gens qui osent négocier le loyer. Bon, souvent, je dis non. Parce que moi, je réponds, je vais essayer de négocier les charges de copro. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais moi, ça me touche. Un petit jeune qui ose négocier le loyer, franchement, s'il me convainc, je prends un café avec lui. Tu vois. Donc, faut y aller, quoi.
Complètement. Je vais parler un petit peu aussi de tes autres activités, justement. Il y a un sujet tout à l'heure que tu as évoqué qui m'a fait sourire et ça me fait rebondir sur un point, c'est que tu m'as dit, voilà, pendant près de 10 ans, j'ai voulu garder ça pour moi et j'ai profité justement à fond du truc pour l'exploiter et poncer le sujet, donc justement l'investissement dans les parkings. Et en 2022, tu as franchi une étape en lançant ton livre, puis ta formation en ligne. Qu'est-ce qui finalement t'a incité à faire cette transition vers l'éducation et le partage de ton expertise plutôt que de rester comme avant dans l'ombre et de te concentrer sur l'exécution de la stratégie plutôt que le partage de la stratégie?
Écoute, moi j'avais une définition, on a tous une définition différente du business et de l'entrepreneuriat. Moi j'avais une définition, c'était ma vie quoi. N'ayant pas eu de père, etc., j'avais un côté laborieux au travail, tu vois. J'avais besoin que ce soit dur, c'est mon activité de commercial. J'aimais quand c'était laborieux. Et à un moment, je suis revenu un peu de ça. Tu sais, le grind, comme disent les Américains. Mm. Tu vois, c'est dur, on y va, c'est laborieux. À un moment, tu te dis, OK, mais je suis tout seul. Moi, j'ai beaucoup été tout seul. Tu vois, j'ai jamais acheté en association des parkings. Pourtant, j'ai des gens très riches qui m'ont dit, on peut mettre, etc., mais je l'ai pas fait. Et du coup, à un moment, je me suis dit, c'est quoi la next step? T'avais pas d'argent. Maintenant, tu as un peu plus d'argent. Du coup, c'est quoi la next step? C'est quoi le sens de tout ça, en fait? C'est quoi? C'est d'avoir 50 Rolex, une belle bagnole. C'est quoi le sens? Et je me dis, bah, le sens, c'est peut-être un moment de motiver des gens, surtout des jeunes, qui étaient un peu comme moi au départ, ou comme moi ou comme toi, tu vois, au départ, quand on était dans notre chambre, devant la télé, et j'ai envie de renvoyer l'ascenseur. Donc, c'est hyper altruiste. Ça paraît un peu foufou, mais c'est réellement, tu vois. Il n'y avait pas une démarche marketing chez moi en me disant, tiens, j'avais pas l'idée de la formation, tu vois. Mm. Je me suis vraiment dit, partage d'expérience. Après, ça m'a amené vers une formation, je vais t'expliquer pourquoi. Mais au départ, c'était vraiment partage d'expérience. Et j'ai commencé à être invité sur un premier podcast. Et le podcast, il marche bien. Un deuxième, un troisième. Puis après, je passe sur un gros podcast en France sur les finances personnelles. Et là, je reçois plein de messages sur LinkedIn. Et franchement, j'étais dans ma voiture de fonction. Je me souviens, j'avais une petite Golf de fonction en Bluetooth. Ouais, j'écoutais que des podcasts de motivation. Bien sûr, le tien aussi. Tu vois, des gens vraiment qui en veulent. Et j'étais tellement sympa, parce que moi, j'ai un fond hyper gentil. Et que les mecs, je leur disais, ils me disaient, ouais, j'ai adoré ton épisode. Hein, genre, est-ce que je peux te poser une question? Et à l'époque, je n'avais pas de notion, tu vois, du coût horaire, etc. Enfin, maintenant, je ne le fais plus. Mais je dis, écoute, vas-y, file ton tel, je t'appelle. Et j'étais éclaté, j'avais fait ma journée de commercial. Et je me souviendrai toujours qu'en rentrant dans mon moins de 20 mètres carrés, mon petit studio là-bas que j'avais, où je vivais complètement en dessous de mes moyens, je gagnais bien ma vie, j'appelais les mecs ou les nanas. Ouais, alors fais ci, fais ça, fais ci. Pas un merci, à rien, pas un retour. Et ils se désabonnent de ta newsletter si tu en as une. Tu vois.
Ouais.
Et je me dis, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur.
Ouais.
Donc à un moment, je suis passé du stade où je veux aider les gens au stade où, OK, les gars, je veux vous aider, mais moi, j'y mets des tripes, j'y mets du temps. Il y a un commerce à faire. Donc, j'ai commencé par le côté aide et après, j'ai vu qu'en fait, bah, il faut que les gens payent parce que de un, ça les engage. Ils vont au-delà des choses, ils vont chercher du résultat. Et de deux, il faut se faire respecter aussi. Donc c'est une volonté altruiste au départ en me disant, bah tiens, je veux transmettre parce que ça fait sens en fait dans l'histoire de ma vie. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, comment on va pouvoir monétiser? Mais j'ai d'abord eu envie de transmettre, quoi, ouais. Sans avoir de stratégie.
Ouais, complètement. Je te rejoins sur plusieurs sujets. Le premier, c'est que c'est vrai que dans un monde où on voit beaucoup d'opportunistes sur le monde de la formation, te connaissant quand même un petit peu, je peux témoigner sur le fait que ton intérêt primaire, c'est pas forcément de faire de l'argent, pour la simple et bonne raison, et j'en rigole, mais c'est que je te charrie souvent sur le fait que tu devrais optimiser justement tes canaux de vente.
C'est vrai.
c'est vrai,
t'as raison.
Et t'es vraiment en dessous de ton potentiel par rapport au chiffre d'affaires que tu pourrais faire, mais en même temps, voilà, c'est pas ton focus et c'est OK, et t'es là pour partager avant tout et kiffer, donc c'est aligné avec ce que tu fais, premier point. Et deuxième point, le plus important peut-être, c'est que les gens n'accordent pas de valeur à ce qui est gratuit. J'aurais pu distiller tout le contenu que j'ai distillé dans mes programmes de formation ces dernières années ou autres derrière, mais ce que je sais, c'est que j'aurais peut-être eu quelques millions de vues en plus, mais j'aurais pas changé les milliers de vies qu'on a pu changer, les centaines de personnes qu'on a pu pour certains même rendre millionnaires pour quelques dizaines d'entre eux. Donc ça, c'est capital. Ce que les gens Enfin, quand c'est gratuit, les gens n'y accordent pas ou peu de valeur. Je rebondis sur un point justement, c'est que donc tu commences après à monétiser tout ça. Bon, tu fais le bouquin, ça t'offre aussi une certaine visibilité, notoriété. Mmh. On sait tous les deux qu'on ne devient pas riche en vendant des bouquins, sauf si tu en vends des millions et encore.
c'est clair.
Ensuite, tu vends quelques formations, c'est cool, tu as des retours, les gens appliquent, c'est chouette. Et de par la vente de ces formations, donc tu génères du cash, tu génères des bénéfices. Et ces bénéfices, tu choisis plutôt que, je sais pas moi, de mener la grande vie ou d'augmenter ton train de vie, de les réinvestir dans des projets de jeunes entrepreneurs. Et tu deviens investisseur, tu deviens business angel. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix et comment ce réinvestissement quasi... instantané, quasi direct.
Ouais,
c'est vraiment ça.
Quasiment.
Hein.
C'est ouf.
Comment ça se réinscrit, ça s'inscrit, pardon, dans ta vision globale, justement.
Bah écoute, tu vas comprendre le truc, Alec, et ça va te surprendre. Enfin, ça va pas te surprendre, mais il faut que je te donne du contexte. La dernière expérience professionnelle de salarié, je suis rentré en mai 2018, et je suis sorti en mai 2022. Donc c'était mon dernier job de salariat. Je ne vais pas citer la marque, mais il y en a qui vont reconnaître. C'est une multinationale dans le fitness qui fabrique des machines de sport très haut de gamme et qui équipe tous les fitness parks, les hôtels. Dubaï, il y a beaucoup aussi, il y a une filiale là-bas aux Émirats. C'est des machines de fitness, tu vois, des tapis de course, des rameurs, etc. C'est un logo jaune et c'est une boîte qui est italienne, qui est le deuxième acteur mondial derrière l'américain Life Fitness ou Matrix, etc. Bref. Et moi, je m'occupais du développement. Je n'étais pas le seul, hein. Je n'étais pas le directeur de cette division, mais je m'occupais des clients particuliers qui avaient des salles de sport privées, Alec, tu vois. Mmh. Donc, des gens très, très riches. En gros, pour faire plus simple, je vendais des salles, des machines de fitness, sachant qu'un tapis de cette marque-là, c'est tout de suite 10, 15, 20 000 euros la pièce. La pièce. Et je vendais souvent des salles de sport complètes à la maison. Donc, tous les milliardaires, on avait tous les joueurs de foot, les acteurs, les hommes politiques, etc. Ils ont leur piscine, leur cave à vin, leur petit cinéma et ils ont souvent la salle de sport parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport. Ils n'ont pas envie de se mélanger aux autres. Et moi, je m'incorporais là. Donc, via des réseaux de prescripteurs comme les architectes d'intérieur, les designers, etc., j'étais en contact avec ces clients que tu ne vas pas prospecter sur Meta. J'avais déjà cette ambition, tu vois, de me dire, bah, les parkings, c'est l'apéro, c'est un petit truc, moi, je ne m'arrête pas à ça, tu vois. Et j'ai posé la question à ces gens-là. Parce qu'en fait, moi, leur vente, c'était un prétexte pour les rencontrer. Moi, j'étais fan de ces gens-là, des gens connus, hein, je te parle. Et moi, je m'en foutais de leur vendre 15 000 euros de machines de fitness. Ce que je voulais, c'était prendre un café avec eux à la maison et qu'ils me donnent des tips. Et t'en as certains, des gros business angels français qui sont à la télé très, très connus, et qui ils m'ont raconté leur vie, tu vois, l'espace de 10 minutes, une demi-heure, une heure parfois. Et on discutait, et en fait, il y avait de l'immobilier, et ils se sont beaucoup enrichis aussi en investissant dans des business. Tu vois, il y en a un, par exemple, qui avait investi dans un gros acteur de la vente privée en France, qui a vendu ses parts, qui a pris beaucoup de millions, et du coup, c'était fascinant pour moi d'avoir un mec, tu vois, qui est comme ça, qui a vendu ses parts, et je me suis dit, moi, quand je vais quitter ce salariat, je veux être comme vous. Je ne leur ai pas dit en face, parce qu'ils auraient rigolé. Mais je me le suis dit quand je suis rentré dans ma petite Golf et que j'écoutais mes petits podcasts pour rentrer dans mon 20 mètres carrés. C'était un 16 mètres carrés. Et dans ma tête, je me suis dit, je veux être comme ces gens-là. Pourquoi je n'y arriverai pas, Alec? Je ne suis pas plus con qu'eux, j'ai deux bras, deux jambes. Je peux y arriver. Mais je vais le faire à ma petite échelle, comme j'ai fait dans les parkings avec les trucs à 4 000 euros où on se moquait de moi à l'époque en 2013. Eh ben, je vais investir. Et du coup, je me suis dit, moi qui suis super ambitieux, eh ben, je vais faire comme les super riches, eh ben, je vais investir dans des entreprises, dans des startups. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. C'était plus un gut feeling, tu vois, une grinta forte. Et dès que j'ai fini mon job de salarié, j'ai sorti le bouquin, attaché de presse, on a fait une vingtaine de gros médias. Et après, j'ai prospecté des réseaux de business angels, super, super haut de gamme. Salut, le lien du livre sur Amazon. Un ou deux podcasts où je suis passé, je m'appelle Alexandre, et ils m'ont dit, ok, ça nous intéresse, hyper atypique, parce qu'ils ont des mecs qui ont 60 ans, qui ont fait des exits, qui ont beaucoup d'argent. Moi, j'étais atypique, en fait. Ils ont kiffé le personnage, et du coup, je me suis retrouvé 2 mois après, à leurs événements, à boire une coupe de champagne, à investir 20, 15, 20 000, etc. Et j'ai déployé entre 100 et 150 000 euros en 2023 quand même là-dessus, tu vois, okay, sur mes fonds propres. Donc, j'y suis allé à fond et parce que j'avais envie de le faire et j'ai pas réfléchi plus que ça, tu vois. Et ça m'a ouvert des portes aussi. Il y a aussi cet aspect-là, marketing, tu vois, ça m'a ouvert beaucoup de portes en termes d'image.
Ouais. Et contredis-moi si je me trompe, mais ouais, donc t'as pas réfléchi plus que ça dans ta volonté finalement de passer à l'action. Par contre, ouais, je pense que t'as vraiment réfléchi en détail quant aux actions que tu as menées. C'est-à-dire que t'as pas investi n'importe comment et dans n'importe quoi. 150 000 euros, on les pose pas comme ça. Et ouais, vu la vision que tu as des investissements que tu as mis dans les parkings, le fait que tu as pris 9 ans avant de prendre cette décision d'être all-in, entrepreneuriat, investissement, etc., c'est pas non plus anodin. Cette volonté de rapidement investir, c'est aussi cette volonté de rapidement accélérer la croissance et puis aller chercher de l'exponentiel dans tout ça. Et j'imagine qu'en 2024, tu auras aussi cette volonté de continuer à enrichir ton portefeuille d'actifs et d'investissements. Mais toi, dans ton cas aujourd'hui, avec l'expérience que tu as pu en tirer, des échanges que tu as eu avec ces personnes que tu as évoquées, mais aussi des clubs dans lesquels tu es situé aujourd'hui en tant que business angel, c'est quoi les critères que tu prends en compte pour choisir les startups dans lesquelles tu investis? Est-ce que tu recherches des caractéristiques spécifiques ou des secteurs particuliers qui te parlent plus? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu évites complètement ou des clés que tu as envie de partager quant au bon deal que tu arrives à identifier?
Au stade où j'investis, c'est-à-dire seed, donc en anglais graine, au départ, pré-seed et seed, c'est vraiment au début de la vie de l'entreprise, c'est là où il y a le plus de risques, mais c'est là où, où le retour sur investissement peut être le plus élevé. Donc, en réalité, en seed, moi, ce n'est pas tellement le product market fit, c'est plus le founder market fit. C'est est-ce que la personne, l'équipe est intelligente, adresse un marché intéressant et est suffisamment smart, humble aussi. J'ai besoin que ça fit avec les fondateurs. Si c'est un solopreneur, c'est compliqué parce qu'il faut plusieurs compétences. Tu le sais très bien, Alec. Une équipe, il y a des gens meilleurs que toi et tout seul, c'est compliqué. Donc, tu ne peux pas vraiment exécuter tout seul si tu veux vraiment faire un gros business. Donc, du coup, j'ai besoin qu'il y ait deux, trois fondateurs qui soient complémentaires. Une team où il n'y a que des ingénieurs, ils ne savent pas vendre, ça me fait peur. Donc, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui sache vendre, quelqu'un qui soit hyper smart sur la tech, quelqu'un qui soit bon dans le marketing aussi. Donc, en fait, tu vas miser finalement. Il n'y a pas beaucoup de data, hein, il n'y a pas de KPI. Parce que souvent, moi, j'ai investi dans des boîtes, même dans du B2C, du retail, des chaînes de boulangerie, j'ai investi des chaînes de restauration. Bah, parfois, j'ai posé 10, 15, 20 000 euros sur une poignée de main sur un chantier de restaurant avec des mecs qui cassent des murs. Donc, il faut avoir une fine vision humaine. Donc ça, j'aurais pas pu le faire à 20 ans, tu vois. Il faut avoir une fine vision de la personne que tu as en face de toi. Tu peux te tromper, hein. Il faut avoir une fine vision. Il faut sentir le marché. Il faut regarder aussi. Moi, je regarde beaucoup qui investit. C'est évident que si tu vois qu'il y a que des inconnus au bataillon ou que des touristes versus des gros noms, bah, je préfère quand il y a des gros noms parce qu'en général, les gros noms, ils font attention à leur argent. Tu vois, ils ne vont pas dans tous les sens. Enfin, il faut aussi une entreprise que je peux aider. Ce qu'on appelle le smart money dans l'investissement en startup, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter en termes de réseau et en termes de compétences. Moi, aujourd'hui, une de mes compétences clés, c'est le développement commercial. L'IMO aussi, mais le développement commercial. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens intelligents où il y ait des bons investisseurs que je peux aider et que ça me parle et que j'ai envie de prendre un café avec eux. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui font que de la tech, que du SaaS, que de la tech. Moi, j'ai aussi investi dans des business retail, B2C, restauration, etc., qui potentiellement ne vont pas faire, tu vois, une valo fois 10 000, comme dans une néobanque, etc. Mais je le sens bien. En fait, ce qui est passionnant dans le fait d'investir en tant que business angel, c'est que, et toi, ça t'intéresserait beaucoup parce que c'est la nature humaine. Mmh. C'est vraiment ressentir. C'est hyper psychologique. En fait.
Je le fais déjà, mais peut-être de manière moins intense que toi, effectivement.
Tu vois, c'est hyper psychologique. C'est qui j'ai en face de moi. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur. Le temps coûte très, très cher. Et qu'il faut tout de suite savoir si la personne que tu as en face de toi, elle peut exécuter. Et que ce n'est pas juste du mytho. Ça, c'est hyper dur à savoir. Mais quand tu fais le bon choix, c'est passionnant. Et là, je ne suis pas encore sorti, je n'ai pas fait d'exit. mais je sais qu'il y a des boîtes qui sont en très très bonne santé. Mais c'est un peu la roulette russe, hein, c'est du casino. Mais ça t'apporte aussi énormément de visibilité. Donc j'avais cette vision, tu vois, j'avais pas la vision marketing dans le parking, ni dans la vente de formation d'ailleurs, comme tu le sais bien. Mais j'ai eu la notion un peu personal branding et marketing dans le fait d'être business angel, qui la move. Tu vois, j'ai un deal flow, hein, j'ai entre 1 et 3, 4 propositions par jour de quelqu'un qui m'envoie son deck. Je réponds même plus sur LinkedIn. Et du coup, ça m'apporte de la visibilité, visibilité, visibilité. On m'invite dans plein d'événements et ça me permet de m'associer dans de nouveaux business, parfois d'être advisor, parce que quand tu n'as plus beaucoup de cash, tu peux aussi dire aux gens, les gars, j'ai plus beaucoup d'argent à investir. Enfin, tu le dis de manière valorisante, hein, bien sûr. En revanche, je peux négocier des actions chez vous en l'échange de pouvoir vous aider sur le développement du business. Donc, il y a d'autres manières aussi, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, de pouvoir rentrer. Mais pour ça, il faut être crédible.
Mmh. Ouais, complètement. Complètement, je te rejoins et c'est super intéressant cette vision. Tu évoques un truc, tu dis, voilà, j'ai pas encore fait d'exit. Bon, j'en doute, hein, vu que tu as investi en 2023 et qu'au moment où on tourne ce podcast, on est le 13 décembre 2023. En général, les exits, ça fait un petit temps quand même, un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. Ouais. C'est quoi ta vision justement là? Est-ce que tu es dans cette optique où voilà, tu investis par exemple, je te dis une bêtise, dans 5 ou 10 boîtes par an? Tu te donnes 3 à 4 ans pour appliquer ce plan avec une typologie d'actifs spécifique. Et puis, tu as des prévisions à voilà, si j'arrive à sortir de 2 boîtes toutes les 5 ou 2 boîtes toutes les 10, tous les 3 ans avec un multiple de temps, je vais chercher tant de rentabilité. Ou est-ce que tu es dans une optique de vouloir trouver la poule aux œufs d'or et aller chercher un multiple, comme tu as évoqué tout à l'heure en prenant l'exemple des néobanques fois 10 000? C'est quoi ta vision concrète, ta stratégie d'investissement concrète derrière? Est-ce que tu vois ça comme étant un levier d'enrichissement incroyable pour toi et c'est ta poule aux œufs d'or, ou juste comme un pilier d'investissement pour aller chercher une rentabilité qui est intéressante, mais qui n'est pas non plus celle qui te rendra multimillionnaire?
Ouais. Je pense que c'est plutôt la vision 2.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est compliqué d'être rationnel dans l'investissement en start-up, en seed, parce que c'est moins rationnel que l'IMO ou que l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu as un abonnement, c'est beaucoup plus carré. Et moi, je considère que le parking, c'est comme l'abonnement. C'est-à-dire que tu vois, chaque personne paye 50 euros et voilà, c'est comme un abonnement avec un peu de churn, mais pas beaucoup. Donc, c'est plutôt la vision 2, c'est plutôt de me dire aujourd'hui, je veux capitaliser, Alec, tu vois, sur mes, on va dire, 10 ans d'entrepreneuriat dans l'immobilier, immobilier, c'est l'entrepreneuriat, dans mes 10 ans vraiment de terrain d'entrepreneuriat, pour avoir développé la faculté de l'intuition et pouvoir avoir cet avantage concurrentiel et comparatif qui me permet de miser sur le bon cheval. Plutôt que de me dire, je vais investir dans 5 boîtes par an. Et du coup, si je fais une sortie en moyenne tous les 4 ans, ça me fait tant. C'est compliqué en fait pour moi de processer le seed. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans du private equity beaucoup plus tardif, parce que justement, c'est plus la prédiction est plus facile. Le seed, il y a très peu de prédictions. Donc, c'est plutôt de me dire, je vais me fier à mon intuition, je vais investir sur le bon cheval, il y aura un peu de casse. On dit souvent qu'il y a 8 startups sur 10 qui se crashent. Moi, j'espère, compte tenu des boîtes dans lesquelles j'ai investi, parce que je précise que ce n'est pas des deals, c'est pas des push entrants sur LinkedIn, hein, c'est des réseaux de business angels. Donc, y a déjà ils sont passés à la moulinette. Je ne me laisse pas avoir comme un bleu, si tu veux. Hein. Y a quand même une étude, une due diligence, etc. Je me dis que je vais faire j'espère que je ne vais pas en cracher 8 sur 10. Mais la vision, c'est ça. C'est de me dire, je vais miser sur des bons chevaux. Il y en a qui vont fonctionner. Ça va me donner du personal branding, ça va me donner de la crédibilité, ça va me permettre, pourquoi pas, de faire un second bouquin, parce que mon éditeur, il est OK, il est content des performances de mon premier. Donc du coup, je me dis, si tu veux, Alex, je me dis, ça va être un multiplicateur d'opportunités plutôt qu'un calcul purement financier.
OK.
Plutôt ça.
OK, je vois, ouais, ça fait sens. Un autre sujet, c'est... Avant, tu étais dans le monde du salariat, tu investissais un petit peu. Aujourd'hui, en quelques années seulement, tu es devenu auteur, tu es devenu investisseur à temps plein, tu es devenu formateur, tu es devenu créateur de contenu. Bref, tu as élargi ton champ d'expertise bien au-delà de l'investissement dans les parkings. Comment est-ce que tu as acquis toutes ces nouvelles compétences dans ces domaines? Est-ce que c'est uniquement du passage à l'action du terrain? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu t'es fait entourer, mentorer pour ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, qui nous écoutent, se disent « Ouais, super intéressant, le parcours d'Alexandre, le parcours d'Alec, le parcours de plein d'autres personnes qui passent sur le podcast. J'aimerais faire pareil. » Mais ils ne savent pas trop aujourd'hui par où commencer. On voit que les informations sont de plus en plus accessibles sur Internet. Mais finalement, est-ce que je dois acheter un bouquin? Est-ce que je dois acheter une formation? Est-ce que je dois acheter un accompagnement? Est-ce que je dois juste passer à l'action, arrêter de me poser 36 000 questions? Toi, dans ton cas, comment tu as fait? Peut-être qu'au départ, bah, tu t'es lancé et puis tu as appris sur le tas. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que tu as les moyens et tu as la conscience de, tu essaies peut-être d'avoir accès à des informations de manière différente, peut-être grâce au réseau, peut-être à plein de choses. C'est quoi, toi, ta méthodologie aujourd'hui, de façon à peut-être donner quelques clés à ceux qui nous écoutent?
Alors, c'est un point intéressant. Je l'ai fait beaucoup seul. Ça ne veut pas dire que je conseillerais de le faire seul. C'est une question aussi de génération. C'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de mastermind, d'accélérateur, de podcast comme le tien. Tu vois, l'écosystème francophone était soit inexistant, soit très peu développé. Je pense et pas être dans le faux en disant ça. Donc moi, en fait, si tu veux, par défaut, je l'ai fait seul. Maintenant, je me suis jamais fait accompagner, mentorer jusqu'à un moment où, par le réseau, si tu veux, on m'a proposé d'intégrer un mastermind. Je trouvais ça génial. Donc j'ai intégré en fait la première version d'un mastermind. Et du coup, j'ai rencontré en fait des gens comme moi qui m'ont fait monter en compétences sur des aspects du marketing digital, des choses comme ça. Et donc, je recommande à tout le monde, effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, tu vois, en 2024, bah, bien entendu, qu'il faut avoir de l'humilité, se dire non, vous ne savez pas tout faire, donc entourez-vous des meilleurs. Donc oui, il faut lire des bouquins, c'est hyper important. Si vous pouvez faire partie de groupes d'accélération. Tu vois, par exemple, l'événement que tu fais à Paris, c'est génial. Tu fais rencontrer quasiment pour pas grand-chose, tu vois, financièrement, c'est hyper accessible. Tu fais se rencontrer des gens qui ont tous des intérêts communs, c'est-à-dire de grossir dans le business. Plutôt en ligne, mais dans le business d'une manière générale. Bah, ça n'existait pas à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'avais pas eu cette chance-là, mais aujourd'hui, profitez de tout ça. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour un jeune qui se lance, parce qu'il a cet accompagnement. Par contre, il y a un truc important, faites gaffe au défocus. Choisissez bien les gens avec qui vous voulez vous faire accompagner. Prenez pas 50 000 formations, 50 000 bouquins, écoutez pas 50 000 podcasts. Prenez les bonnes personnes, les plus legit, les plus légitimes, ceux vraiment qui ont fait de l'argent, qui ont montré les choses pendant plusieurs années. Et ensuite, vous les incorporez dans, comme des mentors, en fait, finalement, et vous y allez. Donc, je pense que, tu vois, moi, Alec, je vois une opportunité et une menace. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Et la menace, c'est qu'il y a tellement trop de contenu, il ne faut pas écouter le mauvais contenu. Tu peux beaucoup te dissiper. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, tu vois, très très jeunes, qui me contactent, qui me disent on va faire ça, ça. Et je vois, ils partent dans tous les sens. Un coup, on fait ci, on change la stratégie, bam, 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 bam. Il ne faut rien. Donc, il faut rester très focus. Mais voilà. Donc, moi, j'ai commencé solo et maintenant, bah, j'ai un très bon entourage. Mon entourage proche a changé, hein, je te le dis. Aujourd'hui, quand je vais prendre, j'ai pas beaucoup de temps. Avec toutes les activités, tu vois, je t'ai raconté un peu en off aussi la partie création de contenu sur les montres et tout. Enfin, honnêtement, mes journées sont hyper timées, comme toi. Enfin, on n'est pas des exceptions. Mais du coup, les gens que je rencontre, tu vois, c'est des CEO. Tu vois, je déjeune avec des mecs qui ont lancé des startups, qui ont fait des séries A, des belles boîtes, et c'est du moment hyper quali parce qu'ils sont meilleurs que moi dans plein de trucs et j'apprends. Mais restez pas seul. Voilà, pour répondre à ta question, restez pas seul dans votre chambre. Ça, c'est bien pour solidifier ton mindset, mais fais attention à pas devenir fou, quoi. À un moment, ouvre-toi et rencontre des gens. Comme ce que tu proposes, par exemple. C'est un exemple.
Ouais, complètement, je te remercie. Je vais rebondir sur un sujet, une avant-dernière question pour toi, et merci pour toute la valeur que tu nous délivres jusqu'ici. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement, que tu as cette nouvelle vie d'entrepreneur, d'investisseur, de business angel, etc. Encore une fois, c'est 31 mai 2022 que tu prends cette décision de quitter
ton CDI.
C'est très récent. ça fait 2 ans et demi. Ouais. Non, ça fait 1 an et demi, pardon. Je me vois déjà en 2024, tu vois. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré ça, tu m'as l'air vraiment très structuré, organisé. Tu fais plein de choses en même temps. Et je pense que beaucoup de gens peut-être vont se reconnaître en toi. C'est-à-dire que... ça va faire un peu vieux con ce que je vais dire, mais tu vois, moi, ça fait maintenant 10 ans que j'entreprends, 7 ans que je suis sur les réseaux, 5-6 ans que je distille du contenu, que je partage plein de trucs. On pourrait dire que j'ai eu du recul et que j'ai eu le temps de recruter, de structurer, d'organiser mes journées, de voir mes routines, de faire en sorte que tout ça puisse rouler comme une horloge pour le jeu de mots de nos passions communes. Et puis, une petite référence à la Suisse qui m'est chère. Mais effectivement, toi, c'est quoi ton quotidien et comment tu fais pour gérer toutes ces activités? Parce que tu l'évoquais rapidement, tu fais aussi la création de contenu dans le monde horloger, des montres avec la chaîne Tocante. J'ai appris ça juste avant, tu as plus de 20 000 abonnés et ça te fait kiffer, etc. À côté de ça, tu as ta formation. À côté de ça, tu continues à investir. À côté de ça, tu es business angel. À côté de ça, tu gères ton business. À côté de ça, tu rencontres énormément de gens. À côté de ça, dès que tu peux, tu vas faire des meet-up, des rencontres et autres. À côté de ça, tu fais des interviews télé, radio.
C'est beaucoup, hein. Il faut avoir une vie sociale.
Voilà, y a plein de trucs, tu vois. À côté de ça, tu voyages. Comment tu gères justement tout ça? Comment tu as créé cette organisation pour faire en sorte qu'en plus, tes finances continuent à croître? Parce que c'est pas juste je pars en vacances et puis je kiffe ma life et je vais rencontrer des gens. Il y a aussi ce côté business qui continue à être omniprésent et puis cette capacité à prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions au quotidien. Ça peut être intéressant parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs peuvent, après avoir trouvé un succès assez rapide, ce qui est ton cas, se sentir surmené et au fur et à mesure prendre les mauvaises décisions et aller jusqu'à parfois même tout perdre ou régresser.
Écoute, c'est, pour être honnête avec toi et avec tous les gens qui nous écoutent, c'est très dur. C'est le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est d'arriver à garder sa clarté. Moi, en ce qui me concerne, c'est le sport, ça me permet, si tu veux, toujours d'incorporer du sport. Peu importe le sport, hein, que vous fassiez du tennis, de la natation, enfin, on s'en fiche. Mais faire du sport, ça permet vraiment de tenir la pression financière. Parce qu'il y a de la pression financière. Hein, quand tu déploies 150 000... dans une première année d'investissement, ça, tu peux mal dormir. Moi, j'en ai eu mal au dos à un moment quand même, tu vois. Quand on a trop sur les épaules, là, symboliquement, ça, c'est compliqué. Donc, faire du sport, moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, j'ai peur. On a tous peur. On a tous beaucoup d'ego. Tout va bien. Non, bien sûr qu'on a peur. Ça fait peur, mais en même temps, la peur, c'est un moteur, Alex. Tu le sais très bien. C'est quand on n'a pas peur qu'on fait rien. Tu vois, moi, j'ai des copains très riches qui ont 20, 30 millions sur le compte de famille, etc. Il ne se passe rien. Donc, oui, j'ai peur, mais en fait, la peur me met en action et le fait d'être dans l'action, je ne pense pas à la peur, quoi. C'est un cercle vertueux. Mais je fais beaucoup de sport. J'essaie toutes les méthodes d'organisation. Tu sais, j'ai lu à un moment un livre qui s'appelle GTD. Après, j'en ai lu d'autres. Enfin, j'essaie tout le temps de m'organiser et j'essaie de m'écouter aussi. Il y a des moments où tu peux être très productif et puis il y a des semaines où tu vas être un peu moins productif. Mais, et pas de défocus. Par principe, tu dis non. Quelqu'un te sollicite, tu dis plutôt non. Et après, tu vois, je peux monter tes réels, je peux faire ci, telle formation, tel tunnel, non. Et après, tu as besoin que les gens fassent leurs preuves, quoi. Et puis, avec le temps, tu affines finalement ton jugement et c'est le 20-80. C'est qu'est-ce qui te rapporte de l'argent et va vers ce qui te rapporte de l'argent, pas aller courir les nanas sur les applications de dating alors que t'as du business à faire, pas aller essayer de convaincre des prospects, des leads qui veulent pas signer chez toi. Ça, c'est une erreur qu'on faisait tous, que moi j'ai fait aussi dans plein de domaines, tu vois, d'essayer de, en fait ça touche ton ego quand quelqu'un veut pas. Tu vas essayer de le convaincre, mais quel temps perdu ! Va vers la personne qui veut acheter chez toi. Donc du coup, moi, ce qui me sauve, c'est de faire du sport et d'aller dans la bonne direction, vers ce qui fonctionne. Un client qui veut acheter chez moi, une start-up qui veut m'avoir dans une conférence, un événement, et ne pas être défocus par le côté rugueux, en fait, de « je dois convaincre ». confrontation, etc. Ça, c'est un immense défocus. Et les gens veulent se confronter à vous, veulent vous donner des objections qui ne tiennent pas à vous parce qu'en fait, ils sont tellement vides dans leur vie que ça les rassure de vous ramener dans leur réalité. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps. Et je vais, pour finir ma réponse, je vais te donner la réponse de ce que m'a donné un super CEO en ce moment qui a une startup qui cartonne. Et je discutais avec lui. Il a fait une série A, il a levé à peu près 10 millions d'euros. Il m'a dit, je lui dis, mais comment je fais pour répondre aux gens, tu vois, sur les decks que je reçois sur LinkedIn, etc. Il m'a dit, moi, je ne réponds pas parce qu'en fait, les gens ont beaucoup trop de temps. Et c'est des voleurs de temps. Les gens veulent piquer ton temps. Tu sais, les cafés virtuels. Est-ce qu'on peut se prendre un café virtuel sur LinkedIn? Virtuel. Mais moi, je dis, j'aime plus le café. Tu vois, les gens ne comprennent pas qu'ils doivent se mettre à la place de l'autre en disant, le mec en face, il est peut-être hyper occupé, il faut être pertinent. Et donc, la réponse, c'est ça. C'est de ne pas être défocus. Tu vois, je prends une feuille, un stylo chaque matin, je me dis, je dois faire ça, ça, ça. Je coupe ma journée en faisant du sport. Parfois, je fais une petite séance, tu vois, le midi. Je reviens. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est parfois couper un peu votre portable aussi, si vous y arrivez. Moi, par exemple, quand je me fais une séance de sport le soir, je sais pas, je fais n'importe quoi à 20h, bah, un de mes grands plaisirs et ce qui m'aide beaucoup à rester focus, c'est que quand je sors de ma séance de sport, je ne rallume pas forcément mon portable et mon WhatsApp. Parce que si je me mets dans le WhatsApp après le bien-être du sport, je vais avoir des soucis et des stress. Ah, t'as pas envoyé ça, etc. Et tu vois, je reste dans cet état un peu de bien-être jusqu'au petit matin. Donc souvent, je me couche plus tôt parce que j'ai pas le WhatsApp jusqu'à minuit, 1h. Donc je me couche plus tôt, je suis en forme. Et du coup, je suis plus pertinent et plus sympa dans mes réponses. Et voilà, donc prenez du temps pour vous, en fait.
Ouais.
La priorité, c'est vous. Et laissez pas les autres vous dicter quand répondre. C'est toi qui dois décider quand tu réponds à un WhatsApp. C'est toi qui es maître de ça. Tu dois être maître de ton temps. Et moi, je suis maître de mon temps. C'est pour ça que j'ai arrêté le salariat. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais je dois répondre. Je dois laisser mon portable allumé la nuit parce que je dois répondre. Mais non, c'est toi qui décides. Si tu veux pas répondre, c'est ton libre arbitre. Donc ça, c'est hyper important.
Complètement, je te rejoins. Merci pour ça. Merci pour tout ce que tu as pu délivrer. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer encore une fois cet épisode, eh bien, vous connaissez la chanson, hein, faites-le nous savoir avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, le petit commentaire, le petit avis, l'interaction sur la publication LinkedIn qui a mis en avant cet épisode. Et puis, bien sûr, on mettra les liens en dessous de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus sur Alexandre. Alexandre, est-ce que tu as mis, avant que je pose la dernière question, est-ce que tu as mis les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify?
Ben non, mais je vais le faire dès qu'on
approche. Ah ouais, il n'avait pas encore fait, il n'a pas c'est encore sûr. Mis. Alors que tu nous écoutes souvent en plus.
Ouais, mais je vais le faire.
Tu vois, tu es comme beaucoup.
Je vais le faire parce
t'es comme
que...
beaucoup, vous ouais. êtes des dizaines de milliers chaque mois à écouter les épisodes et pourtant, on a moins d'un millier d'étoiles, de 5 étoiles sur les plateformes, rendez-vous compte. Donc pour le petit pourcentage qui sont passés à l'action, merci, je vous aime. Pour les autres, je vous aime bien aussi, mais mettez les 5 étoiles, c'est important, ça nous donne beaucoup de force, et le petit avis sur Apple Podcast. Plus sérieusement, Alexandre, ma dernière question, la question que je pose à chaque invité du podcast, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, le déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit professionnel, personnel, sur ces dernières années, que tu n'as pas encore partagé dans cette vidéo, que peut-être tu n'as jamais ou très rarement partagé dans une interview. Ça peut être une citation, une simple phrase, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Le déclic, ça a été de me dire que je suis responsable de ma vie, en fait. Dans le sens, j'ai perdu mon père, tu vois, ça a été hyper traumatisant, je pense pour toi aussi. Et... la faute de l'extérieur. Oh là là, j'ai pas eu de chance. Oh, j'ai pas eu de chance. Mais non, en fait. T'es responsable de ta vie. Et du coup, à partir du moment où je me suis appuyé sur cette souffrance et j'en ai fait une opportunité pour jumper, tu vois, j'ai... Pff, la métaphore, elle est là, tu vois. Je me suis appuyé dessus, C'est comme un ressort, en fait, tu vois. Ça va te parler. Je me suis appuyé sur le ressort, comme si il m'a situé avec ma chaussure. Et quand j'ai lâché le ressort, je suis monté haut. Voilà. Donc, c'est ça, moi, le déclic, c'est de me dire je ne suis pas victime de ma vie. J'ai une vie. Elle a plein d'aspects positifs, quelques aspects négatifs, mais je vais en faire une force. Et quand j'ai compris ça, derrière, j'ai le smile, j'ai la patate. J'espère que ça s'est senti dans ce podcast. Je suis toujours positif, j'ai de l'avant. Et, et t'y vas, quoi. C'est, t'es lancé, tu vois. C'est comme à l'école, tu sais, quand on jetait des trucs, là. Ben moi, la balle, elle est restée longtemps. Très, très longtemps bloquée. Mais quand elle est partie, elle est partie aussi vite que Verstappen, tu vois.
Magnifique. Merci, Alexandre.
Merci à toi.